Salut, on est le 7 novembre 2025. Ça fait un moment que j'ai pas fait de petites notes vocales et j'y réfléchissais un peu, j'essayais d'analyser un petit peu. Et c'est pas que je sois particulièrement occupé ces derniers temps, un peu comme toujours évidemment, parce qu'il se passe plein de choses passionnantes et que j'ai plein de projets et tout. Mais c'est aussi parce que, en fait, j'ai vraiment. Déjà, il y a moins d'actu incroyable à commenter. Et puis là, je suis vraiment rentré dans une phase un peu de réflexion, on va dire, de vraiment creuser la réflexion autour du sujet du vibe coding. Je pense que c'est lié au fait que j'ai la chance de faire plusieurs conférences sur le sujet, la même que je mets à jour, que j'améliore, etc. Et donc, j'y réfléchis beaucoup. Et donc voilà, c'est intéressant. J'avais envie de vous partager un petit peu ça, un petit peu cet état d'esprit, parce que j'ai à la fois toujours de toute façon envie de faire des notes vocales, pas que en réaction à l'actu, mais aussi pour documenter un petit peu ce que je fais, et justement l'avancée de ces réflexions. Mais voilà, déjà là, la première chose, c'est que vraiment en ce moment, je vois des news passer, des choses, des nouveaux outils, voilà, Claude Code qui devient disponible sur le web, etc. La version 2.0 de Cursor et tout. Mais en fait, il y a peu de choses intéressantes, je trouve, dans tout ça, parce que ça y est, les outils sont intéressants. Vous devez apprendre chacun à choisir les outils que vous préférez, chacun et chacune. Et puis, là, maintenant, on arrive dans une phase, et c'est celle, justement, qui m'occupe beaucoup, beaucoup en ce moment, le temps et l'esprit, c'est de comment on utilise ces outils et pourquoi on les utilise. Ça, c'est probablement un des prochains contenus que je vais publier. C'est qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on devrait faire avec le vibe coding? À quoi ça sert? J'ai pas mal expliqué, là, dans les conférences que j'ai faites. Il y en a une qui est en ligne que vous pouvez voir, vous voulez avoir un peu ma vision du vibe coding, cette vision elle évolue. Et notamment j'ai vraiment bien identifié, je commence à avoir les bons termes sur ce que j'ai envie de dire de ça. La première chose que j'ai envie de dire déjà c'est que le vibe coding c'est une posture avant toute chose. C'est vraiment une manière d'utiliser des outils de génération de code par IA et que en fait Cursor n'est pas un outil de vibe coding. Cursor c'est un outil qui intègre un agent IA qui génère du code. Ça peut être utilisé par des développeurs pour faire du code assisté par IA, pour faire de l'ingénierie logicielle assistée par IA. Si le développeur génère du code, qu'il relie, qu'il modifie, qu'il lui aussi utilise l'IDE pour faire du code. Ou alors, ça peut être utilisé en mode vibe coding, mais par la même personne. Un développeur, André Carpati, peut faire du vibe coding, puisque c'est vraiment sa définition, il peut faire du vibe coding juste en utilisant ces mêmes outils, mais en ne relisant jamais le code, en disant oui à tout, en faisant que des copier-coller des bugs, etc. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Donc en fait, je commence à mettre des mots, à vraiment avoir un déroulé un peu clair sur ça. Et donc maintenant, je creuse en fait, je creuse en profondeur, c'est-à-dire j'ai compris quelle était ma vision du vibe coding. Maintenant, ce qui est important, c'est de dire qu'est-ce qu'on en fait. Ça c'est la première chose, ça je prépare un peu des contenus là-dessus. Mais vous le savez, si vous m'écoutez régulièrement, c'est que tout ça vient de la conférence de Maggie Appleton, de cette idée du home cook software, cette idée de faire des choses qui servent déjà, ça c'est la première chose. Et c'est important parce que ces IA, elles ne sont pas du tout neutres, notamment d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de consommation de ressources, donc c'est d'autant plus important de se poser la question de qu'est-ce qu'on en fait. C'est pas mon sujet, mais c'est exactement la même chose avec Midjourney, avec Sora, etc. Si vous utilisez à haute dose du Sora, du Midjourney pour faire des images de chatons, dans un style Studio Ghibli, mais en fait, vraiment, je vous invite à ne pas le faire, quoi. Ne le faites pas, franchement. Faites-en une pour rigoler, pour voir ce qu'il y a possible de faire, mais juste parce que tout ça consomme énormément, en fait. Et juste, ça sert à rien. Enfin, vos images de chatons, ça sert à rien, quoi. Il y en a plein, des images de chatons, déjà, sur Internet. C'est pas la peine. Et je ne pensez pas que quand je dis ça, je vous incrimine ou je pense à des gens. C'est juste, j'essaie d'inviter à la réflexion. Quand je dis ne le faites pas, je me dis moi aussi ne le fais pas. D'ailleurs, j'utilise vraiment de moins en moins les outils de génération d'images parce qu'en fait, je vois bien qu'on peut faire autrement. J'utilise une fois de temps en temps pour mes présentations, mais j'essaye de faire en sorte que mes présentations, je les réutilise, etc. Donc, ça vaille le coup. Et en fait, tout ça, cette réflexion-là, elle vient évidemment aussi avec le code, quoi. Donc, voilà, c'est important, mais en fait, c'est important d'un point de vue philosophique. C'est juste que je pense que les outils no-code, au très sens très très large, incluant les outils de vibe coding, doivent être utilisés pour faire des choses qui servent à quelque chose. Sinon, on perd notre temps, ça ne fait pas avancer la société d'essayer de lancer le millième clone de Airtable pour essayer de devenir riche, quoi. Voilà, bon bref, c'est, je tourne un peu en boucle sur ces sujets-là, mais bon, voilà, ce sujet de qu'est-ce qu'on fait avec, maintenant, voilà, c'est un que je vais développer plus, voilà, un petit peu. Et puis après, bah, le sujet, évidemment, sur lequel je passe le plus de temps, c'est comment on fait du vibe coding. Comment on fait du vibe coding, et surtout comment on fait du vibe coding éclairé, parce que faire du vibe coding, tout le monde peut le faire. Ça, c'est de base, c'est intrinsèque, comme je l'ai dit, c'est une posture, donc tout le monde peut aller dans Lovable demander quelque chose. Ça, c'est accepté, maintenant c'est clair, c'est ok. Et pourquoi pas? Je veux dire, de toute façon, il y a des gens qui ne peuvent pas faire mieux. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'avez aucune compétence technique, si vous faites ça, vous n'allez pas aller très loin. Et moi, ce qui m'importe, c'est que les gens puissent aller un peu plus loin. Et donc, parce que si les gens veulent essayer de résoudre des problèmes intéressants, donc ça c'est le premier point, eh bien autant essayer de vous aider, de nous aider collectivement à pouvoir le faire. Et donc pour ça, donc voilà, donc c'est le sujet de toute cette culture générale informatique qu'il faut acquérir pour faire du vibe coding éclairé. Voilà, donc ça c'est mon grand truc, le vibe coding éclairé, voilà, ça me plaît beaucoup, donc je travaille sur cette roadmap, je fais plusieurs lives déjà. Je vais préparer un quiz aussi qui va permettre un petit peu de s'auto-évaluer. On va essayer voilà, de faire des choses comme ça, donc c'est la dimension un peu plus éducation. J'ai accepté l'idée que je ne ferai pas une formation au vibe coding. Par contre, ce que je vais tester dans une petite dizaine de jours, et je vous en parlerai plus après, mais c'est quelque chose de privé pour l'instant, uniquement pour les membres du Cercle des Ops. Il y a 4-5 personnes du Cercle des Ops qui ont accepté de servir de test, avec qui on va faire une petite cohorte d'une semaine, où on va utiliser le contenu, la philosophie du Cercle des Ops pour faire une cohorte sur le vibe coding. Et l'idée, c'est que je vais leur donner en amont, et je dois encore terminer d'ailleurs, c'est ma tâche avant de pouvoir partir en week-end, mais de leur donner des ressources. Ces ressources, je les ai compilées grâce au travail fait sur la roadmap. Donc vous voyez, tout commence à s'additionner. Tout ce travail de recherche, de réflexion, où je suis parti un petit peu dans tous les sens, et bien là, je commence à converger. J'ai l'impression que là, je suis bien parti pour que justement, à la fin de l'année, j'ai complètement réussi à converger sur ma vision de pour monter en compétence, on passe par la pratique. La pratique, c'est le cercle des ops. Et dans le cas du vibe coding, dans le cas du no-code, des outils d'automatisation, il y a beaucoup déjà de formations, notamment les formations de contournement. Ça, c'est bien adressé. Sur le vibe coding, il n'y a pas encore beaucoup de formations. Il va y en avoir qui vont arriver. Mais en attendant, moi, ce que je sais, qui de toute façon sera complémentaire de toutes les formations qui arriveront, c'est cette notion de culture informatique. Et ça, c'est vraiment, quelque part, c'est un espèce de fantasme, de rêve que j'avais depuis longtemps, de toute façon, de travailler là-dessus. Et là, j'ai enfin trouvé la raison de le faire, parce que je pense que c'est important de comprendre la technologie. Et ça, on l'a dit beaucoup, déjà même par rapport au no-code, une partie des outils no-code peuvent vous aider à mieux comprendre la technologie. Mais moi, je pense vraiment aujourd'hui, c'est presque quelque chose de citoyen et militant, que de comprendre comment fonctionne Internet, etc. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est ça qui va nous permettre de ne pas être asservis complètement par les GAFAM et par tous les gens, et ils sont nombreux, qui essayent de tirer profit de l'incompétence, de l'ignorance, en fait, technique, de la plupart des gens, quoi. Donc, tous ces acteurs voilà, qui profitent du fait qu'on ne comprend rien, on ne comprend rien à ce qui se passe. Alors, je ne m'inclus pas forcément là-dedans, mais je vois bien que c'est la majorité des gens. On ne comprend pas vraiment les conséquences. Qu'est-ce que c'est de comment fonctionne Internet? Le fait qu'on soit traqué en permanence sur Internet, c'est difficile de l'appréhender si on ne comprend pas déjà comment fonctionne Internet, en fait. Et pourquoi est-ce qu'on est traqué? Pourquoi est-ce que toutes ces manipulations, comment elles viennent, toutes ces choses-là, et l'angle un petit peu technique. Forcément, j'ai une vision de tout ça par la technique, parce que c'est ma passion depuis que je suis jeune, mais il y a des choses où je pense vraiment que ça a un intérêt de comprendre pour tout le monde, et encore plus, eh bien, évidemment, pour les gens qui, probablement comme vous qui m'écoutez, veulent travailler aussi là-dedans. Si vous voulez travailler dans le numérique, vous voulez proposer des solutions numériques, vous voulez devenir développeur ou développeuse no-code, bien, vous avez besoin de comprendre tout ça. Il y avait une partie des choses que vous deviez déjà comprendre, les API par exemple, je prends toujours cet exemple-là, c'est un sujet qui est très technique, que je pense on a réussi à bien adresser chez Contournement. Eh bien, ce sujet-là, c'est un sujet parmi d'autres en fait. C'est-à-dire que pour les outils no-code, c'était indispensable, pour utiliser Make, c'était indispensable. Pour les Make, il y a d'autres choses, des notions de programmation, etc. Donc, mais il y a plein d'autres choses qui complètent, et donc c'est ce sur quoi j'ai travaillé. Je suis arrivé à un petit déroulé, mais c'est très très dur parce que c'est très très vaste, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et que j'ai envie de vous partager. Mais donc voilà, je crois que je suis arrivé, donc ça va être justement, je vais le mettre à l'épreuve dans cette première petite cohorte. cette notion un petit peu de ressources. Et si tout va bien, je ferai une vraie cohorte. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez vous inscrire. Donc, une vraie cohorte qui sera ouverte à tout le monde en décembre. J'aimerais le faire une fois avant la fin de l'année pour ensuite pouvoir partir en vacances tranquillement, mûrir tout ça. Et puis, il y aura une vraie cohorte du Cercle des Ops au mois de janvier. Puis, on verra après comment ça va s'articuler un peu entre vibe coding et no code, etc. Mais voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Écoutez, c'est tout. Voilà, c'est ça qui m'occupe en ce moment. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que j'étais pour vous faire un petit peu plus aussi les coulisses de ces dernières semaines, puisque ça fait, je crois, à peu près presque 2 semaines, je pense que j'ai pas fait de notes vocales. J'étais aux Utopias à Nantes, qui est un grand festival de science-fiction. C'est la deuxième fois que j'y allais. Là, j'y suis resté plus longtemps. J'étais avec mon meilleur ami, c'était super. Voilà, c'était vraiment passionnant. C'était inspirant aussi pour moi parce que d'une part, je suis un fan de science-fiction, mais comme je crée aussi du contenu, bien, ça me donne des idées aussi, ça me donne des idées d'univers, etc. Pour ne pas tourner en boucle un peu sur mes fantasmes cyberpunk et mettre ça à toutes les sauces dans mes contenus. Mais voilà, il y a d'autres univers, d'autres sujets, enfin, d'autres narratives. Donc voilà, bon, c'est pas, j'y allais a priori pour le plaisir, mais toujours, quand je vais dans des trucs comme ça, ça m'inspire de voir comment les gens parlent des choses, il y a plein de trucs, donc voilà, c'est un très bel événement, si vous connaissez ou si vous êtes passionné par la science-fiction, n'hésitez pas à y aller l'année prochaine, tous les ans, c'est toujours, je crois, le premier week-end, le dernier week-end d'octobre, premier week-end de novembre, je sais pas trop, mais voilà, donc c'est un très beau moment, et j'ai eu encore un autre déplacement, hier j'étais à Rennes pour la journée, c'était un peu sportif, je suis parti quasiment avec le premier train et rentré avec le dernier. Mais j'ai eu la chance d'être invité à intervenir dans une table ronde à l'Université de Rennes sur une journée dédiée à l'IA. Et c'était franchement super intéressant parce que, alors déjà, pour l'anecdote, j'ai été invité grâce à mon intervention de la conférence GenAI du 18 septembre. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait, j'y réfléchissais hier dans le train en rentrant. Et en fait, le fait d'avoir accepté cette conférence, en fait, j'ai longtemps hésité. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à Denis. S'il écoute, mais voilà, mais c'est vrai que j'ai longtemps hésité à faire cette conférence et je suis très content d'avoir accepté et déjà je suis très content du résultat de la conférence et puis surtout ça m'a lancé en fait vraiment sur une conférence et en fait là depuis, donc la semaine prochaine je vais intervenir à la grande journée, donc ça pour moi c'est très intéressant, très important, mais c'est plus parce que c'est pour un public qui est proche de moi, de la communauté No Code. Mais cette même conférence, je vais être invité à la faire à API Days en anglais en décembre et j'ai été accepté à 2 autres conférences, une à Normandie AI en décembre aussi et à Grenoble au mois de janvier. Et donc en fait, ça m'a lancé vraiment sur une série dont la première en fait, donc conséquence a été, donc Toulouse, c'était pas corrélé, mais voilà, j'ai été à Toulouse aussi. Mais là, donc je suis allé à Rennes grâce à cette première conférence et donc là, il y a une cascade, j'espère, qui démarre et qui est assez chouette parce que franchement, donc pour en revenir à hier à Rennes, en plus, petit coup du sort, le soir, il y avait le meet-up GenAI de Rennes, donc c'était parfait. Je reviendrai dessus juste après. Mais donc, à la table ronde, c'était en fait avec des universitaires principalement, c'était à l'université. Et je m'attendais à ce qu'il y ait plutôt des élèves. En fait, non, c'était plutôt pour des professeurs, des universitaires, donc il y avait des questions très très intéressantes. C'était un monde que je connais pas du tout. En plus, après, au buffet, j'ai pu discuter avec 2 professeurs. Professeur d'électronique, un professeur d'informatique. Ça m'a rappelé aussi, moi j'ai eu le plaisir et la chance de faire mes études à la fac à Jussieu. J'ai beaucoup aimé, moi je suis pas très fan des grandes écoles, bon, problème avec les écoles, mais moi j'aime beaucoup la fac, j'aime beaucoup l'état d'esprit. Donc là j'étais hyper content de me retrouver dans cet environnement. Et d'ailleurs j'ai dit en blaguant au début de la table ronde que c'était la première fois que je me retrouvais dans un amphi du côté du bureau, du côté du tableau. Donc franchement c'était assez impressionnant. Et surtout d'avoir un amphi qui était plein de profs. Donc ça, c'était vraiment double niveau. Mais franchement, ils ont eu des questions super intéressantes. C'était un peu challengeant aussi, mais c'était bien. Moi, comme je réfléchis beaucoup à tout ça, je crois que j'ai une posture qui est assez raisonnée. Je parle pas du vibe coding en mode LinkedIn. Donc je crois que ça amène des discussions intéressantes. Et néanmoins, il y a eu une question un petit peu provocatrice d'une personne qui est un directeur du FR, donc c'est quand même assez au niveau, qui disait oui, mais on aimerait bien aussi qu'on dise que c'est bien d'apprendre à coder, quoi. Enfin, je sais plus comment il disait, voilà, un peu que c'est bien le vibe coding, etc., mais il faut pas oublier aussi que c'est un métier et qu'on aimerait bien que les gens, meilleur moyen quand même de faire du code, c'est d'apprendre à coder. Et il avait raison, mais je me sentais aussi à l'aise de lui répondre que malheureusement, grâce à mon expérience aussi de simplon, du no-code, etc., bah, tout le monde ne peut pas apprendre à coder, tout le monde n'a pas besoin. Enfin voilà, donc ça, c'est des sujets qui me passionnent, que j'ai eu en plus l'occasion, notamment sur la partie code, de beaucoup discuter avec Erwan. On a été beaucoup challengés en fait là-dessus au début du no-code. Donc nous, on est sur des postures, on est solide sur nos appuis là-dessus. Donc vraiment, moi, je me sens très à l'aise sur ces choses-là, étant en plus moi-même développeur. Donc voilà, donc ça m'a vraiment intéressé. Donc je suis hyper content. J'espère que j'aurai d'autres occasions de faire des interventions comme ça, pas juste des choses un peu descendantes. Même si je dois dire que je suis assez content aussi que ma présentation ait été acceptée deux fois là dans deux nouveaux Call for Speakers. Alors voilà, je l'ai faite aussi, je l'ai quand même designée pour qu'elle soit un petit peu attractive. Et je sais que j'imagine que cette petite histoire aussi autour du pop art et d'Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat doit un petit peu intriguer et attirer. Mais elle est sincère, c'est pas du tout un gimmick que j'ai trouvé pour faire ma présentation. C'est vraiment un truc que je crois profondément et que je vais aussi creuser. Ça, c'est moins prioritaire, parce que là, dans ma présentation, en réalité, il y a des aspects que je survole un petit peu, mais j'ai plein de pages de notes et je dois encore lire aussi sur Basquiat et sur Warhol. J'ai des livres que j'ai achetés, mais ça, c'est pour l'année prochaine. Là, je suis content quand même de cette version-là. Je ne vais pas m'auto-flageller, mais voilà, mais je sais qu'elle peut être un peu plus profonde sur le côté artistique. Il y a des trucs. Voilà. Mais le fait d'être accepté dans des conférences, ça me donne des opportunités de l'améliorer. Puis d'avoir des feedbacks aussi. Donc voilà, pour vous donner un petit peu cet état d'esprit. Et autre chose, parce qu'en fait, donc en ce moment, quand même, je suis quand même très très stimulé intellectuellement. J'ai aussi déjeuné avec un ami, j'ai envie de dire maintenant, je pense qu'on se connaît un petit peu depuis quelques temps, Jérémy, qui est un expert en gros acquis très reconnu dans la communauté, que je croise à des événements. Et on a déjeuné ensemble, et en discutant, en fait, il m'a aussi vachement bien motivé sur le fait de reprendre ma newsletter. C'était cool. Et je pense que je l'avais pas pris par le bon angle, cette newsletter. J'étais tombé dans le truc un peu facile, ça je l'avais déjà analysé, mais truc un peu facile de la veille et tout ça qui me correspondait pas. Mais voilà, je pense qu'il y a un format que je vais réussir à trouver. D'autant que maintenant j'en lis à nouveau des nouvelles. Enfin, bref, et notamment il y a un truc d'horaire. Et donc là, je vais tenter de le faire. Je sais pas si je vais réussir à le faire aujourd'hui, mais en tout cas, je pense que je vais le faire le vendredi après-midi plutôt. Je vais les envoyer le samedi matin ou le vendredi en fin de journée, je m'en fous en fait. Mais peut-être je vais les envoyer le samedi matin, je les programmerai pour qu'à partir du samedi matin, comme ça les gens le regardent le week-end, s'ils veulent, puis ou s'ils veulent pas. Enfin voilà, de toute façon, j'ai pas encore énormément d'audience, mais je pense que le vendredi après-midi, pour finir la semaine, en fait, comme j'ai beaucoup d'insights, de choses qui m'arrivent, de réflexions par la semaine, de débriefer un peu de ça. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais envie de faire, de débriefer un peu de mes semaines, mais de débriefer un peu de ça sous la forme d'une newsletter et de partager mes réflexions et un petit peu ce que j'ai consommé et tout dans la semaine. Ça, je pense que ça pourrait pas mal marcher, donc voilà, je vais tenter là, je vais peut-être le faire là dans la foulée, mais j'ai un autre sujet que je dois terminer, donc je vais voir, je sais pas trop, mais voilà, parce que je veux pas les faire le week-end. Ça, par contre, j'ai pas envie de travailler le week-end, même si ça m'arrive de temps en temps, mais j'ai pas envie d'avoir un truc récurrent, un rituel à faire le week-end, donc voilà, parce que je crois que Jérémy l'a fait le dimanche, ses newsletters, c'est un peu... Mais voilà, mais c'était chouette, et voilà, entre autres choses, hein, on a bien discuté, c'était super sympa, il y a plein de trucs. Mais voilà, ce truc-là, en parlant avec lui, je me suis dit quand même que je le sais, les newsletters, c'est hyper important à plein de niveaux. Puis j'ai beaucoup aimé faire celle de contournement, et puis la mener quand même avec le succès qu'elle a eu. Alors maintenant, elle a un petit peu changé, mais c'est plus ma responsabilité. Mais le modèle qu'on faisait vraiment me plaisait bien, donc voilà, il faut que j'arrive à retrouver un petit peu cette dynamique. Et puis voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Petit épisode, une petite vingtaine de minutes pour vous donner des news. Mais voilà, c'est aussi quelque part, en fait, à l'image de ce que je disais pour la newsletter, c'est probablement ça aussi qui va plus se passer dans ces podcasts. Hein. C'est plus de partage, d'un petit peu d'analyse, de choses comme ça. Bon, de toute façon, c'est peut-être probablement ce que je faisais déjà, puis mélangé avec des reacts un petit peu sur l'actu. Mais voilà, là, c'est vrai que ça m'inspire plus du tout. Il y a un truc que j'ai dans ma to-do quand même, c'est la fonction de skills de Claude. Mais très franchement, j'ai du mal un peu à l'appréhender. Il faut vraiment que je me plonge dedans, donc je ne vais pas vous la commenter. Mais j'ai une intuition qu'il y a un truc assez chouette dedans, mais je n'ai pas réussi encore à le pousser. Mais voilà. Mais par contre, commenter là, les actus les outils de vibe coding, pour l'instant, ça me fait pas. Ça va revenir, mais là, j'ai besoin de consacrer mon énergie mentale à ce sujet des ressources, à ce sujet du chemin vers le vibe coding éclairé, parce qu'il est un peu. Il est important. Il est important, j'en ai besoin. J'ai besoin, là, avant la fin de l'année, de me faire une première version de ce truc-là, une roadmap un petit peu définitive, d'avoir des. Pour voilà, être aussi un peu en paix avec ce truc-là. Donc voilà. Mais là, de toute façon, je sais hein, comment faire ces choses-là. Il suffit de se mettre des dates. Donc là, j'ai dit à des gens que le 17 novembre, on avait rendez-vous pour que je leur faire du vibe coding ensemble. Donc voilà, j'ai pas le choix. Donc voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous dis bonne journée, à bientôt. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux que vous voulez, que vous souhaitez. Et puis, sur. Toujours le Slack de No Code France dans le channel des contenus d'Alexis. Voilà, ça me fait toujours plaisir, notamment par exemple quand Claire fait des feedbacks après les épisodes et tout, ou quand d'autres, hein, je dis Claire parce qu'il y avait un long message qui était super intéressant, qui faisait une super continuité avec la discussion qu'on a avec Lucien. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas. Je sais pas si peut-être certains d'entre vous trouvaient ça un petit peu intimidant, mais si vous écoutez ces podcasts, sachez que vraiment, moi, ça me fait super plaisir. Et puis voilà, j'ai envie que c'est des discussions en fait. Moi, j'ai pas la science infuse, j'ai des idées que j'ai envie de confronter, j'ai envie d'enrichir. Donc voilà, sentez-vous à l'aise de le faire parce que vous l'avez peut-être constaté hein, sur ce canal Slack. En tout cas, il y a que des gens bien intentionnés, intéressants et intéressés. Donc ça, c'est l'endroit. Et sinon, en privé, c'est très bien aussi. Allez, à bientôt, salut.